réflexion. Je crois être en mesure de faire le point sans passion quant à la place occupée par Marie, la mère de Jésus, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament en particulier. Je désire le faire de manière objective, sans susciter chez qui que ce soit la moindre réaction négative. Les raisons qui ont amené les hommes à accorder à Marie une place prépondérante dans le culte de certaines églises ne seront pas abordées. Nous nous limiterons à envisager uniquement les circonstances et les endroits où sa présence a été constatée, ou encore le rôle qu'elle pourrait y avoir joué. Tout cela sera fait en ayant pour simple but de ne pas soulever de remous ni de heurter la conscience de quiconque. Nous utiliserons uniquement la Bible comme source d'information. En première partie, nous subdiviserons notre analyse en trois périodes distinctes. La première, avant le ministère de Jésus, la deuxième, durant le ministère de Jésus, et la troisième, après le ministère de Jésus. L'ange Gabriel apparaît à Marie à Nazareth et lui annonce qu'elle va donner naissance à un fils par la vertu du Saint-Esprit. Elle visite sa parente, Élisabeth. Josette est averti dans un songe par un ange que la conception de Marie est miraculeuse. Joseph accepte alors de l'épouser. Joseph et Marie se rendent à Bethléem et là, elle donne naissance à Jésus. Un ange rapporte à certains bergers la naissance du Messie et ils vont la voir. Jésus est circoncis, il en a un nom, et il est présenté au temple de Jérusalem. Les mages d'Orient viennent lui offrir des présents, mais rentrent ensuite chez eux. Le roi Hérode va s'emparer de Jésus, qu'il considère comme mettant son trône en danger. Joseph et Marie passent en Égypte. Plus tard, ils reviennent à Nazareth et s'y installent pour de bon. À 12 ans, Jésus va célébrer la Pâque à Jérusalem avec ses parents, puis rentre à Nazareth. Jésus grandit dans ce même village. Durant le ministère de Jésus, Marie est présentée pendant les événements suivants. Une noce à Cana où Jésus fait son premier miracle. Jésus, sa mère, ses frères et ses sœurs ainsi que ses disciples se rendent brièvement à Capernaum. Marie et les frères du Seigneur tentent de parler à Jésus alors qu'il enseigne à Capernaum toujours. Sur la croix, Jésus parle à Marie et à l'un de ses disciples. Après le ministère de Jésus, Marie n'est mentionnée que deux fois dans le Nouveau Testament. Comme tout d'abord étant dans une chambre haute à Jérusalem, où tous, je cite les paroles de la Bible, tous persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ensuite, par l'apôtre Paul, mais pas nommément, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Il faut remarquer que Marie est présente lors de nombre d'événements situant avant le ministère de Jésus. Elle est citée quatre fois seulement durant ce ministère et une seule fois après. Depuis le livre des Actes et tout au long des 22 livres qui suivent, la Bible ne parle pas de Marie, exception faite de Galates, chapitre 4 et verset 4, à propos de la naissance de Jésus, ce que nous avons déjà cité. Il ne fait aucun doute que durant toute l'époque où se situe l'Évangile, Marie joue un rôle important. Néanmoins, lorsque le Fils de Dieu commence son ministère public à l'âge de 30 ans environ, Marie semble s'estomper pour presque disparaître des pages de l'Évangile. Elle prononce ses dernières paroles connues à Cana, au cours des fameuses noces, et où Jésus fait son premier miracle à sa demande. Et le rôle de Marie décroît ensuite, celui de Jésus-Christ s'accroît. Même durant les événements se déroulant avant le ministère de Jésus, l'attention n'est jamais attirée par Marie, mais bien sûr, par son Fils qui va bientôt changer la face du monde. Avant que Jésus ne rentre au ciel, il dit à ses apôtres, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Plus tard, il dit également, quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Par le Saint-Esprit, Jésus va donc clôturer la révélation de la volonté de Dieu avant la fin du premier siècle de notre ère. D'ailleurs, Pierre, à la fin de sa vie, va en parler au passé. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vérité en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1:3. Le Nouveau Testament, nous le savons, est la loi parfaite, la loi de la liberté. Jacques chapitre 1, verset 25. Il englobe tout ce que nous avons besoin pour arriver à la vie éternelle. À plusieurs reprises, Jésus nous met en garde contre la venue de faux prophètes. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et de grands prodiges. Matthieu chapitre 7, verset 15, notamment. Les apôtres donneront des avertissements similaires. Et il faut bien constater que nombre de faux docteurs s'employaient déjà, avant le tournant du premier siècle, d'éloigner les gens de la vérité apostolique. Et se faire un mal quelconque de croire ou d'enseigner des doctrines qui ne se trouvent pas dans la Bible. Disons ceci. Premièrement, que si nous enseignons les doctrines humaines, Dieu n'accepte pas notre culte. C'est en vain qu'il demande un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que les préceptes humains, dit Jésus en Marc chapitre 15 et verset 9. Deuxièmement, quiconque transforme ou pervertit l'Évangile sera exclu du milieu des chrétiens. Écoutez plutôt. Si nous-mêmes, dit Paul, si un ange du ciel vous annonce un Évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, Galates 1, 8. Troisièmement, croire de faux enseignements nous ferait perdre notre récompense finale. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, Colossiens 2, 8. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Si nous suivons des doctrines humaines, nous devenons nécessairement disciples de ces hommes. Pour abandonner le Christ, celui-ci nous met en garde en ces termes. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Cinquièmement, le prolongement de tout ceci se trouve en 2 Jean chapitre 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. En bref, celui qui ne s'en tiendrait pas à la parole inspirée de Dieu ne pourrait se réclamer de Dieu et mettre en lui ses espérances. Si une doctrine, un enseignement, une vérité première ne se trouve pas dans la Bible, il paraît évident que nous ne pouvons pas nous permettre de lui accorder notre crédit. L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Il faudra en quelque sorte que nous devenions comme les chrétiens de Bérée, qui avaient des sentiments bien plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Au jour du jugement, le verdict de Jésus-Christ sera basé sur la vérité qui nous a révélée dans le Nouveau Testament. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean chapitre 12, 48. Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Romains 2, 16. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Acte 17, 31. On se situe difficilement dans l'histoire, la période exacte au cours de laquelle on commence à donner le titre de mère de Dieu à Marie. Mais de nombreux historiens penchent pour le début du 5e siècle, c'est-à-dire plus de 3 siècles après la fin de la rédaction du Nouveau Testament par les apôtres. En Jean chapitre 2, verset 1, Marie est nommée mère de Jésus. Sa parente utilise l'expression « mère de mon Seigneur » en Luc chapitre 1, verset 43. Mais Marie ne revendique jamais le titre ou l'expression « mère de Dieu ». Jésus et le Nouveau Testament restent également silencieux à cet égard. Jésus-Christ est la seule personne qui fut jamais humaine et divine à la fois. Son père n'était pas humain, mais bien sa mère. C'est grâce à un miracle que Dieu donna une forme humaine à son fils par Marie. Le Christ est également le premier être à exister avant de devenir chair dans le sein de sa mère. Il est le fils unique de Dieu. Tout le monde est issu d'un père ou d'une mère, sauf Adam, Ève et Jésus. La vie de chaque être humain débute par une mère humaine, après avoir été conçue par un père humain. Mais ici, Dieu forme l'esprit d'un être à l'intérieur de ce corps. Hébreu, chapitre 12, verset 9. Qui ne vivra qu'une fois sur terre. Hébreu 9, 27. À la mort, notre corps se décompose et notre esprit retourne à Dieu pour attendre le jour de la résurrection, le jugement, la récompense éternelle ou le châtiment. Marie fut la mère de la forme humaine de Jésus. Par Marie, Jésus était un descendant physique de David, selon les prophéties. Luc, chapitre 1, verset 32, le dit bien. Né de la descendance de David selon la chair, dit encore Romains 3. Le Christ, en s'adressant à Nicodème, lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3, 6. C'est pourquoi Marie occupe une place de choix, joue un rôle unique dans ce merveilleux projet de Dieu. La chair du corps de Christ a été formée par Marie, qui tout en étant la mère de la forme humaine de Jésus, n'a cependant pas conçu sa nature divine. Cette nature existait bien avant que sa chair ne se façonne en Marie. Environ 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Michée annonçait déjà que le Seigneur viendrait de Bethléem. Il disait que Jésus existait de toute éternité. Écoutez, en toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Chapitre 5, verset 1. L'apôtre Jean, en l'appelant la parole, dit de Jésus, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1, 14. Un autre passage de la Bible est très symptomatique. Jésus est ici aux prises avec les pharisiens. Et les entendant sans cesse se réclamer d'Abraham, le réplique, avant qu'Abraham fût,